Bonjour, professeur Daniel Mermet. Voilà, j'ai appris que vous étiez un expert en économie et j'ai un petit souci et peut-être pourriez-vous m'éclairer. Je crois que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, mais voilà, j'ai un capital de 6 millions d'euros. Ouais, ça y est, tout de suite, mec, il bondit, tout ça. Mais oui, j'ai un capital de 6 millions d'euros. C'est pas donné à tout le monde, mais bon, patiemment accumulé avec une succession d'opérations bancaires plus ou moins profitables, j'y suis parvenu. Bon, j'ai 6 millions d'euros et l'État français, avec l'argent des contribuables, ne garantit que les dépôts jusqu'à 100 000 euros. J'aurais aimé savoir s'il est possible donc d'inscrire tout ce capital sur une soixantaine, disons, de comptes séparés, de façon à pouvoir me les faire rembourser tous intégralement en 60 fois 100 000 euros. C'est possible? Si, ça doit être possible quand même. Ne dites pas qu'une loi l'empêcherait. Non, sinon les lois ne seraient plus ce qu'elles sont. Eh bien voilà, il y a toujours des solutions à nos petits tracas quotidiens. Merci à tous de vos réponses. Au revoir.
Oui, merci pour l'émission sur La Poste. Alors moi, contrairement à une auditrice, j'ai trouvé ça formidable que l'émission enchaîne avec une pub de La Poste bancale, France Inter, l'indifférence. En plus, c'était une pub pour les garanties obsèques avec le chien qui sauve sa petite vieille de la noyade. Alors j'espère que La Poste a souscrit un contrat parce qu'elle en aura sûrement besoin bientôt, étant donné qu'elle risque fort de se noyer dans les douves qu'elle est en train de creuser pour soi-disant se protéger de la concurrence. Et les chiens n'aiment pas les postiers, c'est bien connu, je doute qu'il y en ait un pour aller la repêcher. Voilà, merci, au revoir. Et c'était un facteur du Jura. À plus.
Oui, bonjour tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis. Bonjour à l'équipe de Daniel Mermet. Voilà. Écoutez, c'est simplement pour vous communiquer que ça fait un petit moment qu'on n'a plus les cours de l'or à la radio. C'est un peu gênant. Bon, on peut dire aussi que le lingot d'or a pris 14,62% depuis le début de l'année et qu'en fait, la pièce de 10 dollars USA est à 89,56. Et je crois qu'il y a un dicton qui dit... On achète de l'or au son du canon. Bon, allez, bonne journée. À bientôt, ciao.
Le repère de Annecy se tiendra exceptionnellement ce mercredi 8 octobre à 19h au bar Le Dersim de Mettay. Le sujet sera 30 ans après Vive la crise, un point d'interrogation sur la phrase Vive le crash. Mercredi 8 à 19h au Dersim, qu'on se le dise et répète. Salut Mermet, salut à tous.
Oui, salut à toute l'équipe. Par rapport à la queue qu'on peut trouver dans les guichets SNCF, parce que tout le monde se plaint toujours qu'on fait beaucoup la queue au guichet de la SNCF, il faut savoir que c'est pareil qu'à la Poste. Et ils proposent des trucs aussi. Et si ils n'ont pas proposé le truc du moment, y a un chef qui est toujours pas loin et qui leur dit alors qui n'a pas proposé ça et pourquoi et tout ça. Alors évidemment, ça prend du temps tout ça. Voilà. Mais la SNCF, faut pas croire que c'est une entreprise de service public. Hein. C'est depuis quelque temps déjà. C'est une entreprise, bon d'accord, de service public, mais qui travaille exactement pareil qu'une entreprise privée. Voilà, mais personne ne sait. Et je ne l'ai pas dit. Voilà. Bonne journée à tous.
Le petit délinquant de quartier doit vraiment se sentir un vrai minus. Car en ce moment, le vrai délinquant qui a la classe, c'est celui en costard-cravate et ordinateur portable avec tableau financier. Et lui, il en a dans les bourses. Salut.
À mémoire à vif, indiscipliné, insoumis, incontrôlable, donc rebelle, on pense qu'il est urgent de laisser notre défaitisme au placard. C'est pourquoi on vous propose 3 journées sur les luttes ouvrières d'hier et d'aujourd'hui, à travers films, débats, chansons, les 9, 10 et 11 octobre à Limoges, au cinéma Le Lido et au Théâtre de l'Union CDN du Limousin. Vous découvrirez des films jamais vus, ou si rarement que seuls quelques anciens s'en souviennent, des gens toujours prêts à en découdre, Charles Piaget, l'âme de la lutte d'élite, Jean-Pierre Levaré et ses copains ouvriers de putain d'usine, et cerise sur le gâteau, un final de combat d'humour, de poésie avec la compagnie Joli Môme. Venez avec eux mettre le feu à la pensée. Tout le programme sur le site www.mémoireavif.info.
Voilà, c'est Daniel Descuiseaux. Je ne suis pas un fan de Daniel Mermet. Je pense que Daniel Mermet, c'est un vieux gauchiste attardé, mais à côté de ça, son émission, j'écoute. J'écoute parce qu'elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que souvent, il y a des réactions de gens du cru, les vrais, et direction qui m'interpelle. J'ai entendu à la radio, là, un gars qui disait... le mec, il était en pleurs, il disait, le gars, on m'a pris 25 euros parce que j'ai eu un découvert de quelques centaines d'euros pendant 8 jours, et aujourd'hui, on va aider les banques, on va leur donner des milliards, des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros pour sauver ces banques qui nous ont exploités pendant des années. Moi, je suis patron d'une entreprise. Nous sommes 12 dans mon entreprise, c'est une petite boutique. Je suis plutôt à droite modérée. Mais c'est un coup à basculer à gauche, ça. Quand on entend tout ça, Bush, il va donner 700 milliards de dollars à des gens qui ont exploité le peuple américain. Et le peuple américain, et par l'intermédiaire du peuple américain, et par l'intermédiaire de tous ces fonds de pension qui ont exploité le peuple français, le peuple européen, le peuple mondial, on va donner à ces gens-là des centaines de milliards pour les sauver de la merde. Je suis de droite modérée, je viens de le dire, mais je vais virer ma cutie, je peux pas faire autrement avec des inepties de la sorte. C'est abominable. C'est abominable.
Ça s'appelle trouver son chemin de Damas, j'imagine, je vous imagine, cher auditeur modeste et génial, dans votre petit auto, petit patron d'une douzaine de salariés qui tout d'un coup découvre, qui se dit, mais on nous aurait menti en tout cas. Les vieux gauchistes attardés et les gens du cru, comme vous dites, eh ben, il se pourrait qu'ils ils soient pas gourés tant que ça. Depuis des années, là-bas, si j'y suis, fait partie de ces groupuscules, effectivement, de gauchistes attardés qui critiquent, qui essaye de mettre en lumière les dégâts du... comment appeler ça, le nouvel ordre capitaliste. Ça fait un bout de temps que ça dure et que nous faisons partie de ceux qui critiquent et qui voient aujourd'hui qu'ils sont en train de s'enrhumer avec les vestes qui se retournent autour d'eux, et cette obscénité opportuniste qu'on entend et qu'on peut lire ces jours-ci, c'est assez rigolo. Rigolo, pas trop, parce qu'en fait, ce nouvel ordre capitaliste a eu des... C'est pas seulement une affaire de joueurs et de spéculateurs et de tricheurs qui seraient tout d'un coup punis, qui se retrouveraient le bec dans l'eau. Ils vont s'en sortir, soyez sans inquiétude pour eux. Ce qui est préoccupant, c'est que depuis des années et des années, un petit quart de siècle, ce dogme, non pas politique, mais économique, idéologique en tout cas, a eu de lourdes conséquences en France, par exemple, sur l'emploi, sur l'économie réelle, sur les entreprises, et à travers le monde, en creusant un fossé de plus en plus important entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire entre cette minorité d'habitants de cette planète qui sont les Occidentaux et le reste du monde. Et ce fossé préoccupe un homme qui s'appelle Jean Ziegler, que vous connaissez, qu'on aime beaucoup, beaucoup à la base, et j'y suis, et qui publie un livre ces jours-ci qui s'appelle « La haine de l'Occident », où Ziegler, vous allez l'entendre, s'inquiète beaucoup devant ce fossé qui se creuse entre ces deux humanités, on va dire, nous et le reste du monde. Nous, je ne me mets pas comme vieux gauchiste attardé avec les chantres de cet Occident qui se réclame de l'ordre néo-capitaliste. On aura compris. Donc on va passer cette heure avec Jean Ziegler. D'abord sa réaction sur la situation que nous sommes, les heures que nous sommes en train de vivre, et puis cette haine de l'Occident qui, selon lui, se développe à travers le monde.
Dans les élites du Sud, c'est l'évidence que ce capitalisme globalisé qui obéit à l'avidité des acteurs, simplement aux détenteurs des capitaux, qui est dirigé par quelques oligarchies financières mondiales, est définitivement démasqué maintenant. Définitivement démasqué. Parce que pendant très très longtemps, il faut pas oublier quand même, et moi j'en ai souffert, vous avez souffert, etc., on passait pour des demeurés, quand on disait c'est de l'obscurantisme, quand on dit le marché doit s'autoréguler. Hein. L'homme n'est plus le sujet de l'histoire, il y a des lois économiques qui sont comme des lois astronomiques, naturelles. Le marché, la main invisible, est seul capable d'organiser le monde. L'État national, c'est un modèle
dépassé.
Totalement dépassé. Des syndicats, des parlements, la normativité territoriale ou même supraterritoriale n'est plus du tout conforme aux exigences du marché. Eh bien, cet obscurantisme néolibéral qui imposait la libéralisation partout, c'est-à-dire la disparition de toute capacité normative des collectivités, la privatisation, la disparition des secteurs publics de services, hein, en les soumettant à la loi de la maximalisation du profit, ce modèle de société qui a dominé quand même depuis 91 le monde, depuis l'implosion de l'Union soviétique, était une bonne chose en août 91, hein, depuis la fin de la bipolarité de la société internationale, eh bien, c'était une domination totale. C'était une doctrine qui était pratiquement inattaquable. Et maintenant, les acteurs le voient, les victimes le voient, il y a une sorte de total démasquage. Cet obscurantisme est un obscurantisme meurtrier. Le marché, quand il est livré à l'avidité des spéculateurs, je prends un exemple, Richard Fuld, celui qui a ruiné la banque Lehman Brothers, hein, la troisième banque de dépôt des États-Unis, qui vient d'être interrogée par le Congrès, il a dû avouer que deux jours après avoir demandé la faillite de sa banque et ruiné des centaines de milliers d'épargnants, lui et ses camarades de la direction ont encore distribué parmi eux-mêmes, entre eux, 400 millions de dollars de bonis, de gratification, de versement. C'est un cynisme totalement criminel qui, évidemment, crée de la conscience au Sud. Crée de la conscience au Sud, renforce la résistance, renforce la volonté d'autodétermination et de combat.
C'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Jean Ziegler, la haine de l'Occident.
Flight number 2, arriving from New York.
On a commencé l'entretien avec Jean Ziegler. J'ai toujours heureux de vous voir et de vous retrouver. Jean, alors là, c'est au tour d'un bouquin qui sort ces jours-ci chez Albin Michel. La haine de l'Occident. Alors, ce n'est pas l'Occident qui est haineux, c'est la haine envers l'Occident. Et là, bien sûr qu'on sait le contentieux, pour ne pas dire plus, qui existe entre une partie du monde, la partie pauvre du monde qu'on appelle le Sud, ce qui n'est pas forcément toujours au Sud, mais enfin, on appelle ça comme ça, on appelle le Sud, ce ressentiment et vis-à-vis des pays riches et vis-à-vis de ce qu'on est convenu d'appeler l'Occident. Mais là, ce que vous dites, et là où vous en êtes de votre expérience, de vos réflexions, de votre travail en tant que membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ça devient extrêmement préoccupant. Et alors, effectivement, quand on cite votre fonction, Conseil des droits de l'homme, on dit ça c'est bien, l'ONU, on dit, ça c'est bien. Or, pour une grande partie du monde, ce monde-là, le monde du Sud, c'est pas bien. Ou du moins, ça n'inspire pas la confiance qu'on pourrait supposer, ni les droits de l'homme, ni les Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a un rejet de l'Occident, un rejet croissant, un rejet puissant, et une haine face à la domination occidentale. Vous citez, dans l'introduction du bouquin, vous citez Régis Debray, qui dit que on ne comprend rien au XXIe siècle si on ne distingue pas deux espèces qui sont face à face, ou dos à dos, qui sont l'humiliant et l'humilié. L'humiliant et l'humilié. Et tout votre bouquin s'articule, au fond, sur ces deux mots.
D'abord, vous avez tout à fait raison, le titre du livre peut choquer, la haine de l'Occident. Il en fait deux types de haine. D'abord, il y a la haine pathologique, hein, le terrorisme, le maladif, hein, pathologique, hein, pathologie sociale, Al-Qaïda, les salafistes, hein, etc., qui font sauter des trains avec des femmes et des enfants dedans, à Madrid, à un métro à Londres, des attentats en Algérie, ou encore le 11 septembre à New York. Cette haine pathologique, celle-là, elle est à rejeter totalement. Il n'a aucune excuse quelconque, quelle qu'elle soit, pour un acte terroriste, même s'il est motivé, soi-disant religieusement, par le conflit des civilisations, tout ce que vous voulez. Cette haine pathologique, elle est monstrueuse. Elle est à écarter immédiatement. Mon livre est sur une haine raisonnée, tout à fait différente, dont je vois l'action impressionnante et destructrice en même temps au sein des Nations Unies, dans mon travail quotidien au Conseil des droits de l'homme. Quelque chose de très étrange s'est passé. C'est-à-dire, nous sommes 6,3 milliards d'êtres sur Terre. Maintenant, 4,8 milliards vivent dans un des pays de l'hémisphère sud. Et la majeure partie de ces peuples du sud rejettent totalement, à partir de maintenant, totalement la prétention universaliste de la civilisation occidentale. Les Blancs, c'est 13% de la population minoritaire. Les Blancs dominent depuis un demi-millénaire, depuis la fin du 15e siècle, cette planète. Aujourd'hui, à travers le système du capitalisme globalisé qui fait mourir les enfants de faim dans les pays du Sud, eh bien, cette rupture peut être choquante pour un occidental, mais on ne se rend pas compte, quand on est occidental, blanc, français, suisse, même si on est un intellectuel de gauche comme vous et moi, on ne se rend pas compte de la profondeur des blessures. Il y a un mystère dans la mémoire. Pour la Shoah, ça a pris 50 ans que, enfin, les victimes des effroyables massacres monstrueux de nazis ont eu la parole. Je donne des exemples très précis. Alors qu'il y a eu Nuremberg, tout le monde savait à partir de novembre 1945 quelle était l'horreur, la dimension des crimes nazis, mais ce n'est que 50 ans plus tard que la Shoah a été recevable par la conscience collective, et aujourd'hui elle est là comme un fait d'histoire dominant, massif et à juste titre. La même chose s'est passée mystérieusement dans la conscience collective des peuples du Sud en ce qui concerne l'esclavage, en ce qui concerne le colonialisme. L'esclavage est terminé, grosso modo, le dernier État qui a abandonné l'esclavage, enfin légalement, c'était le Brésil, 1848, c'est terminé, l'esclavage comme système, et le colonialisme est terminé, la domination coloniale des Blancs sur l'Afrique, sur l'Asie du Sud, etc., est liquidée depuis 50 ans. Or, c'est maintenant que ces peuples-là, notamment la conférence de Durban des Nations Unies sur le racisme en 2001, que les peuples du Sud, brusquement, demandent réparation, demandent des excuses. Monsieur Sarkozy va en Algérie, l'année dernière, pour un accord commercial, d'amitié, etc., etc. Monsieur Bouteflika lui dit d'abord, vous vous excusez pour les massacres de Constantine, 1945, 52 000 personnes civiles, pacifiques, non armées, massacrées par la Légion étrangère dans le Constantinois. Vous excusez pour les massacres de Sétif, vous faites repentance et après, on peut discuter. Évidemment, M. Sarkozy a dit, mais non, il n'y a pas de repentance à voir, je ne suis pas là pour parler du passé, je suis là pour parler de l'avenir. Dans ce cas, a dit M. Bouteflika, vous rentrez chez vous, je ne signe rien. Étonnant, tout à coup, cette mémoire blessée, profondément blessée, qui demande justice et qui devient une force historique, devient une force historique agissante. C'est une haine
politique,
argumentée.
Politique, le mot argumentée, que vous cherchez, c'est politique.
Et le capitalisme mondialisé qui a les effets tellement effroyables dans les pays du Sud, tous les 5 secondes l'année dernière, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim dans les pays du Sud, et 854 millions de personnes, un nombre sur 6 sur la planète, essentiellement dans le Sud, sont gravement et en permanence sous-alimentées. 100 000 personnes meurent de faim ou de ces suites immédiates tous les jours, toujours dans le Sud. Cette horde du capitalisme mondial qui semble en crise aujourd'hui, eh bien, est pour les pays du Sud la continuation directe du système esclavagiste, du système colonial, l'apogée paradigmatique en quelque sorte de tous les systèmes d'oppression que l'Occident a infligés au Sud. Celui-ci est, pour citer Edgar Morin que je cite dans le livre, le plus cruel par son extension planétaire et par son cynisme, le capitalisme mondialisé. Le livre s'est déclenché à partir d'une de quelque chose que j'ai vécu au sein du Conseil des droits de l'homme en tant que membre du Conseil consultatif. Vous savez qu'au Darfour, il y a un effroyable génocide depuis 3 ans et demi qui se déroule contre les Fours, les Massalites, les Tsagwa, des peuples ancestraux africains magnifiques, noirs, dans l'ouest du Darfour, dans l'ancien sultanat du Darfour, qui était jusqu'en 1912 un des États maghrébins les plus florissants, parce qu'ayant recueilli les réfugiés andalous au moment de l'expulsion de l'Espagne. Là, à Khartoum, il y a au pouvoir le Front du Salut, islamique du Salut, et notamment un dictateur tout à fait effroyable qui s'appelle Omar Béchir, qui est d'ailleurs recherché maintenant par la Cour pénale internationale, Omar Béchir, qui a massacré plus de 300 000 personnes dans l'Ouest, dans les trois provinces du Soudan occidental. 2,5 millions de personnes ont été expulsées, villages brûlés, puits empoisonnés. Et le massacre continue. Bon, la France a demandé que le Conseil des droits de l'homme envoie une mission d'enquête et ensuite demande au Conseil de sécurité d'envoyer des casques bleus pour mettre fin au conflit et en même temps enquête sur les violations des droits de l'homme. La majorité du Conseil, des 47 membres du Conseil du droit de l'homme, qui est là pour appliquer les principes de la charte de la Déclaration universelle de 1948, dont on va fêter le 10 décembre le 60e anniversaire, eh bien, cette demande française a été refusée totalement par la majorité du Sud, des États, 47 États du Conseil. Et je donne les différents dialogues extraordinaires des gens extraordinairement cultivés, intelligents, sachant parfaitement de ce qui se passe au Darfour. Par exemple, l'ambassadeur algérien, qui est un type extraordinaire à Genève, d'une culture descendant d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader, il s'appelle M. Idriss Chaïsir, un homme tout à fait remarquable, parfaitement informé, ou Sarala Fernando, l'ambassadrice du Sri Lanka, une bouddhiste formée à Oxford, etc. Ils savent parfaitement ce qui se passe au Darfour, mais le simple fait qu'un ambassadeur de France prenne la parole et attaque un régime noir est intolérable. Non pas parce qu'ils ne condamnent pas eux-mêmes la dictature islamiste au Darfour, mais simplement l'hypocrisie, le double langage qu'ils croient déceler dans ces démarches leur est insupportable. Et là, je donne tout l'éthique à Sarah, l'ambassadrice du Sri Lanka, qui me dit, mais enfin, comment il ose, l'ambassadeur allemand, a demandé l'intervention de l'ONU au Darfour. Comment, alors, après ce que les Allemands ont fait, pas il y a si longtemps, ce qu'ils ont fait aux autres, où les Anglais ont voté pour, l'ambassadeur anglais a voté pour cette résolution d'intervention au Darfour, alors que les Anglais ont coupé les doigts des enfants, des femmes qui ont 17 ans en Inde, parce qu'il fallait couper court à toute concurrence des tisserins indiens face à l'industrie naissante du textile anglais. Donc comment il ose, un ambassadeur français, comment il ose, après les massacres de Sétif, après les massacres en 47 du Madagascar, etc. Donc il a une rupture dans la communauté internationale, maintenant, qui fait que la revendication universaliste de l'Occident, les droits de l'homme, universels, indivisibles, interdépendants, etc., etc., tout cela n'est plus recevable. N'est plus recevable du tout. Du tout.
Mars 2001, San Paolo, la basse qui suit.
Je ne suis pas votre garoto propaganda. Na minha boca, non, c'est vous qui manda. A minha testa, non, c'est seu outdoor. Non, je ne preciso de dó. A sua hipocrisia, eu já conheço de cor. A piada é antiga. Resto de comida nessa mão inimiga, se liga. A mim dá dor de barriga. Quem é você pra me chamar de carente? Sua alma de gente. Suas intenções, é muita merda na mente. E boas ações, só na bolsa de valores. Essa bondade, expressão desse rosto. É tudo 7-1 pra não pagar no imposto. Um bronzinho empresário, um dia solidário. Sai, não sou otário, eu sou da Zona Sul. Eu ouço Racionais, Mano Brown, esse blue. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu. Olha ele lá no helicóptero. Pra lá e pra cá de avião, é. E aqui no chão, com seu carro importado, blindado, muros altos e eletrificados, por todos os lados. Em todos os lugares, seus paramilitares, vigias, alarme, Doberman, Rottweiler, Pastor Pitbull, Demônios Exu. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu.
C'est pour remettre en question les gens qui font la charité au feu rouge et qui te donnent la petite pièce de monnaie parce qu'ils vont pouvoir déduire ça de leurs impôts, parce que ça ne va pas remettre en question les valeurs de la bourse, ça ne va pas faire chuter l'économie et que ça va leur nettoyer leur conscience. Quoi.
La charité, tu peux te la foutre au cul. Quoi.
C'est ça, voilà, exactement.
Alors, dans ce bouquin, La haine de l'Occident, Jean Ziegler, vous parlez des effets,
oui.
Mais vous essayez de regarder les causes de, oui. cette haine, de ce rejet radical aujourd'hui, et vous allez aux racines de la haine, que vous appelez les racines de la haine, déterrer les racines de la haine, et voir de quoi est faite cette mémoire blessée du Sud, de ce ressentiment. Alors évidemment, vous commencez, on aurait pu commencer avant, mais enfin vous commencez quand même par évoquer à grands traits oui. Ce que fut la traite négrière.
Oui.
Vous évoquez aussi à grands traits ce que fut la période coloniale.
Oui.
Vous évoquez aussi à grands traits, si on a pensé après les décolonisations dans les années 60, même si on voyait ce qu'on a appelé le néocolonialisme se mettre en place, mais on pouvait espérer qu'un certain nombre des États ou des parties du monde décolonisés allaient parvenir à une certaine souveraineté, à un certain développement. Or, on voit que ce développement n'est pas à l'ordre du jour et que la révolution néolibérale, enfin le nouveau capitalisme, a plutôt contribué à créer un fossé encore plus grand, plus important, entre le Nord et le Sud, notamment à travers les politiques du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors, vous prenez aussi des exemples, parce que vous êtes un homme de terrain, c'est pas seulement la théorie, et puis vous êtes un voyageur, vous enquêtez à travers votre activité, vous allez notamment vous évoquer le Nigeria, et vous évoquez la Bolivie. C'est presque deux histoires...
Antinomiste.
Voilà.
Nigeria, c'est l'exemple type d'un grand, puissant pays du tiers-monde qui abrite des très grandes cultures, certains millénaires, les Fulani, les Yoruba, etc., etc., qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, plus de 100 millions d'habitants, qui est le 8e producteur de pétrole du monde et qui est totalement entre les mains des trusts pétroliers étrangers, notamment de Shell, de Total, de Repsol, etc., etc., d'Exxon, de Texaco, qui se sont arrangés dès l'indépendance, enfin, 6 ans après l'indépendance, avec les militaires, une junte militaire qui gouverne sous des masques constitutionnels différents depuis 1966, cet immense pays, maintenant parti d'Abuja, parti d'une nouvelle capitale sur les plateaux de Jos, et le résultat de cet extraordinaire développement pétrolier-gazier est que le Nigeria a le taux d'analphabétisme le second de l'Afrique, plus de 62% de personnes, que 70% des personnes sont en dessous du minimum vital et que 45% des gens sont gravement et en permanence sous-alimentés. C'est-à-dire qu'il y a une misère, un arbitraire policier, une insécurité, une angoisse du lendemain dans ce pays, la destruction sociale, la misère infligée par ce système de complicité entre une junte militaire payée par les pétroliers étrangers occidentaux et ces comme disait Chomsky, ces gigantesques personnes immortelles hein, qui sont les trusts transcontinentaux créent une situation de souffrance extrême. Et vous avez, contre-exemple, la Bolivie. Depuis décembre 2005, le premier président indien de pays d'Amérique latine est arrivé avec une forte majorité, 53%, c'est jamais arrivé avant, au pouvoir, par des élections totalement libres et transparentes, depuis 500 ans après la conquête espagnole, les effroyables massacres que je décris aussi, les Aymara, les Quechua, les Moxos, les Guarani, enfin les grandes communautés, il y a 12 000 les quelques, qui font à peu près le 65% de la population, ont mis au pouvoir un des leurs. Et ce Evo Morales, qui est un paysan totalement ancré dans sa communauté, a en 2 ans repris le contrôle des ressources pétrolières et gazières. Et pas n'importe quelle ressource. Les deuxièmes ressources gazières de l'Amérique latine, l'Afrique, et les deuxièmes ressources pétrolières d'Amérique latine également, derrière, chaque fois derrière le Venezuela. C'est-à-dire à exproprier, c'est plus compliqué, je le décris, n'a pas exproprié avec l'aide des Norvégiens, des Algériens, des Vénézuéliens, à imposer des nouveaux contrats qui ont transformé ces sociétés Texaco, Shell, etc., en sociétés de services. C'est-à-dire qu'ils font encore beaucoup de profits, mais en sociétés de services. Ça rétablit la souveraineté énergétique. Et d'un seul coup, les rentrées d'impôts, de revenus, sur le pétrole et le gaz bolivien, les rentrées de l'État ont augmenté 18 fois. Et enfin, Morales peut attaquer maintenant la malnutrition infantile, l'absence totale de système scolaire, de système de sanitaire de base, peut enfin donner une chance de vie à son peuple. Mais déjà, évidemment, la sécession menace...
À Santa Cruz,
où sont d'ailleurs d'anciens nazis, c'est ça qui est incroyable.
Et des Oustachis.
Vous avez tout à fait raison. Vous savez que dans cet triangle dont Santa Cruz est la capitale, si vous voulez, qui va du Rio Paraguay, aux Misiones au nord de l'Argentine, et donc tout l'Orient brésilien, était le lieu où les nazis, les SS... et leurs complices, les croix de fer roumains, les SS ukrainiens et les Oustachis, c'est-à-dire les fascistes croates, se sont réfugiés. Tous ces criminels les plus horribles que l'histoire de l'humanité ait connu. Barbie, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, le chef de la Gestapo à Lyon, qui a fait déporter les enfants d'Isieux, qui a assassiné, qui a fait tuer Jean Moulin, le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, être exfiltré, a rejoint Santa Cruz et est devenu chef de la police bolivienne. C'est un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Reichmann, le boucher de Riga, etc., a aussi fait carrière là-bas. Et aujourd'hui...
Ils avaient le projet de préparer le 4e Reich.
Oui, ils avaient le projet de préparer le 4e Reich. Heureusement, ça a raté. Mais ces mêmes Oustachis maintenant, qui sont là, les fils des Oustachis, qui restent totalement dans la même ligne idéologique, qui sont devenus très riches entre-temps, qui d'ailleurs, quand ils ont les vacances, vont lutter à Mostar et ailleurs. On fait la chasse aux musulmans de Bosnie entre 1995 et 2002. C'est les mêmes Oustachis, c'est des fascistes très mobiles et qui ont alimenté les milices de Mostar dans les Balkans. Ces mêmes Oustachis aujourd'hui, à partir de Santa Cruz, organisent le sabotage contre le président indien, élu, démocratiquement élu, le traite de nouvel Hitler. Vous imaginez, Markovitch, le traite de nouvel Hitler, un président élu démocratiquement de Hitler, c'est une nouvelle forme inédite de paranoïa politique. Mais je crois, l'exemple bolivien que je décris longuement montre combien cette haine de l'Occident, c'est-à-dire cette détermination de rompre avec l'État colonial, c'est-à-dire de rompre avec la toute-puissance et l'exploitation des sociétés étrangères occidentales, de puiser dans la mémoire collective des communautés, des traditions indiennes, andines, là, les valeurs fondatrices, qui sont d'ailleurs aussi celles de la solidarité, de la justice sociale, de se prémunir avec précaution et énergie contre tout intégrisme ethnique, contre tout fanatisme tribal, contre tout rejet de l'autre parce qu'il n'est pas indien, de créer un contrat social, un état de droit, une vraie nation. Ça, c'est l'exemple de la Bolivie, maintenant, qui les Européens ignorent totalement ce qui se joue là-bas, totalement. même l'intelligence européenne se détourne totalement de ces processus, tellement, pas vous, et je ne veux pas vous reprocher quoi que ce soit, c'est un exemple d'espoir formidable. Il y a au sud des forces de création autonome, d'autodétermination, qui vont faire un monde nouveau à la périphérie de ce monde capitaliste mourant.
Les Boliviens le nomment désormais Don Evo. L'enfant du pays est le premier à accéder aux plus hautes instances de l'État. Avant lui, il n'y a eu que des Blancs et des Métis. Evo Morales est le premier Amérindien appelé à diriger la Bolivie depuis que la République existe, c'est-à-dire depuis 180 ans.
Il y a une rébellion en ce moment en Bolivie. Le peuple a aujourd'hui le courage d'affronter l'Empire américain. Le peuple n'a plus peur de ces menaces. Nous ne voulons pas devenir leur cauchemar, nous le sommes déjà.
Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Óyeme cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si bailando un inglés se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. ¡Dale caña!
Y la propiedad.
C'est la propriété du pétrole et du gaz naturel qui passe en ce moment même dans les mains de l'État bolivien et sous le contrôle du peuple bolivien. C'est la solution aux problèmes économiques et sociaux de notre pays. Le fait de retrouver ces ressources naturelles va créer de l'emploi. Et c'en est bien fini du pillage de nos ressources par les multinationales du pétrole.
C'est vrai que les médias français, notamment, sont beaucoup plus durs avec le Venezuela et la Bolivie qu'ils ne le sont avec le Nigeria, dont on n'entend jamais parler. On ne sait pas ce qui se passe au Nigeria. Par contre, on suit de très très près les faits et gestes de Hugo Chavez, par exemple, ou de Evo Morales en Bolivie. C'est assez curieux. Voilà pourquoi nous continuons avec Jean Ziegler, qui sort ces jours-ci chez Albin Michel, un livre intitulé « La haine de l'Occident ». Alors, à chaque fois, pour chaque partie du monde, là, on a parlé du Nigeria, là, on parle de l'Amérique latine, vous revenez sur l'histoire, sur les racines de la haine, vous évoquez la conquête de l'Amérique latine, vous évoquez, par exemple, ce que fut Potosi. Potosi, c'était une mine d'argent.
Oui.
Où des travailleurs, des mineurs se sont succédés pendant 3 siècles,
oui,
dans un état proche de l'esclavage, et 8 millions d'Indiens, oui, sont morts là. Alors, il faut savoir ça, même succinctement, oui, pour faire un lien avec la motivation des Aymaras ou des Quechua.
Totalement.
De la région.
Là, ce qu'on appelle la conquista, la conquête de l'Amérique, et notamment de l'Altiplano, enfin, c'est, la Bolivie était la partie sud de la vice-royauté du Pérou durant le temps de Charles Quint, et puis enfin durant tout l'Empire. Potosi, c'est extraordinaire, c'est une ville, d'abord une très très belle ville, c'est une des grandes sucrées, Potosi. Et vous savez, le Cerro, c'est la montagne, qui est trouée de toutes part, enfin, hein, et qui était la plus grande mine d'argent que le monde n'ait jamais connue, hein, qu'on n'ait jamais découvert, et qui a alimenté, hein, sur des mulets, l'argent partait d'abord à La Paz, dans le, au fond du canyon, de là à Lima, sur la côte, de Lima, sur les bateaux à Cartagena de las Indias, sur la côte, ensuite, et de Cartagena de las Indias à La Havane, et à La Havane, les bateaux chargés d'or et d'argent étaient convoyés par la Grande Armada, c'est-à-dire par la flotte de guerre de l'Empire espagnol, et alimentés à travers la caisse de Séville, alimenter tout le développement, toute la richesse, toute la puissance militaire.
40 000 tonnes d'argent ont été extraits comme ça.
Par des esclaves, par des Indiens qui avaient une attente de vie de 2 ans quand ils étaient esclaves miniers, mitayos, comme on disait. Et ils étaient forcés de descendre ces escaliers. Mais moi, j'ai encore vu, parce que maintenant, on peut visiter. Il y a encore une exploitation artisanale, archaïque, par les plus pauvres, jusqu'à 400 mètres de profondeur, sur 18 étages. Et ils ne pouvaient remonter que si ils avaient sur leur dos la quantité nécessaire de minerais argentifères, autrement ils étaient rejetés par les gardes qui les attendaient en haut. Et des révoltes, même là, des révoltes ont eu lieu avec les ossements de leurs camarades morts, étouffés ou morts des gaz ou des éboulements au fond des puits. Les survivants ont fait à plusieurs reprises, c'est attesté par les documents historiques, fabriquer des poignards avec les ossements de leurs camarades morts, des poignards. Et avec ces poignards, ils sont remontés les échelles et ont massacré les gardes. Et puis après, tout de suite, la garnison est arrivée à chaque fois à rétablir ce qu'on appelle l'ordre, à rétablir l'ordre. Mais donc, d'une part, c'est pour ça que je vous remercie de ce chapitre historique qui précède l'actuelle résurrection, hein, incarnée en Evo Morales. D'une part, il montre l'effroyable cruauté de l'Occident face au peuple andin. Hein, c'est un génocide, une cruauté effroyable, avec la bénédiction évidemment de l'Église. Et en même temps, l'extraordinaire force de résistance dans des conditions invraisemblables, incroyables, et des communautés indiennes ont résisté. Les résistances n'ont jamais... C'est comme pour l'esclavage des Africains dans le nord du Brésil ou à Cuba. Eh bien, les insurrections d'esclaves rythment les siècles. 1831, La Havane était entre les mains des insurgés Nago, Yoruba, etc., etc. Donc, il y a dans cette histoire de l'oppression effroyable qui remonte maintenant à la mémoire collective et à la conscience collective des peuples du Sud, se transformant en force historique de combat que je vois aux Nations Unies, qu'on voit sur la scène politique internationale aujourd'hui, il y a cette permanence de la résistance qui est extraordinaire, qui montre que ces sociétés-là ne vont jamais mourir.
Vous avez évoqué rapidement l'Église, vous évoquez la Sainte Inquisition, toujours en Amérique latine, mais vous évoquez tout récemment un discours de Benoît XVI en mai 2007 s'adressant à l'Amérique latine. Oui. Et c'est un peu comparable au discours de Nicolas Sarkozy à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la même méconnaissance, ou c'est la même provocation, ou c'est le même mépris, et c'est le même discours des humiliants aux humiliés qui font mine ou qui ignorent, ou qui font mine d'ignorer le passé, la mémoire, et cette mémoire ne peut pas être autre chose que vive et toujours remise à vif.
Oui. C'est donc à la cathédrale Aparecida, entre Rio de Janeiro et São Paulo, qui était construit exprès pour la visite du pape l'année dernière, pour 37 millions de dollars, pour une seule visite. C'est pas mal. Et le pape, là, a dit textuellement, enfin je le cite ici, « Les peuples indiens d'Amérique latine ont longtemps attendu le Christ, etc., etc. Finalement, il est arrivé, ils l'ont bien accueilli, et tout ça, alors que c'est à travers l'horreur, hein, que l'Occident s'est manifesté, pas du tout à travers les valeurs de l'Évangile. Là, il y a une, dans ce discours du pape à la cathédrale Aparecida au Brésil, où étaient plus de 200 cardinaux, évêques, etc., de toute l'Amérique latine. Ça s'adressait à l'Église de l'Amérique latine, et le Brésil est le pays le plus catholique, où les catholiques sont les plus nombreux au monde. Donc c'était pas un petit meeting, c'était vraiment le grand moment du rassemblement catholique. Et là, le pape a proféré des mensonges effroyables par rapport à l'histoire réelle qui s'est passée. Mais en même temps, je cite dans le livre, le jésuite Vieira, Antonio de Vieira, extraordinaire, avec son fameux discours sur l'esclavage, et Barthélemy de Casas aussi, mais Vieira qui dit « L'esclave, c'est le Christ crucifié. Le Christ est recrucifié tous les jours, des centaines de milliers de fois, des millions de fois, à travers l'esclavage, à travers la souffrance du noir déporté ou de l'Indien assassiné. Je crois que Vieira est dans le vrai. Ce jésuite est dans le vrai, et le pape, malheureusement, est dans le faux. Et M. Sarkozy, c'est un tout petit peu différent, parce que lui, par rapport au colonialisme, il y a une attitude assez étrange. Il fait la comptabilité. Vous me direz, c'est normal pour un néolibéral qui croit au capitalisme. Et il l'a fait dans son discours de Dakar, et puis dans le discours à l'université de Constantine, quelques mois après, en Algérie, un discours avec sa propre interprétation du colonialisme, où il dit, regardez, on a construit tant de routes, tant d'écoles, tant de centres de santé, etc. Si on regarde le bilan, il est positif. Il a eu des égarements, il a eu les coloniaux, le colon voulait faire le bien, mais par inadvertance, il a fait le mal, parfois.
Oui, mais c'était d'une bonne intention.
Alors que moi, je dis, et je trouve, enfin, ma réaction spontanée, qu'est-ce que ça doit être pour un Africain, c'est de dire, c'est de l'indécence. De dire, 85 000 personnes ont été assassinées, femmes et enfants compris, en 47, par la Légion étrangère à Madagascar, hein. À Sétif, il y était 48 000 personnes qui étaient mitraillées en 45 dans le Constantinois, parce qu'ils demandaient pacifiquement, le 8 mai, pacifiquement, l'autodétermination, le droit de vote, etc., etc., que De Gaulle avait promis.
Se libérer comme la France venait de se libérer.
Oui.
Et à laquelle ils avaient participé.
Avec laquelle ils avaient participé. Alors, pour M. Sarkozy, de mettre en balance, de dire, regardez, 7000 kilomètres de route au Sahel, au Cambodge, au Tonkin, etc., etc., quelques morts, c'est d'un autre ordre. Ça n'a rien à voir. Le massacre de Madagascar, ou le travail forcé au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Afrique centrale, qui a fait des milliers de morts, la sous-alimentation organisée sur les plantations du Cambodge, enfin, tous ces crimes effroyables, qui ne sont pas les crimes, c'est ça, mais effroyables des colons, pendant plus d'un siècle, dont sont victimes les peuples du Sud, ne peut pas être comparé, sont d'un ordre différent, sont le crime absolu, et rien ne compense ce crime. Aimé Césaire, que je cite beaucoup,
oui.
Et qui ne voulait pas recevoir M. Sarkozy, même qu'il était ministre et ensuite candidat à un président, finalement, on l'a accepté quand même de le recevoir, et bien dans son discours sur le colonialisme, il dit simplement la fin, la dernière phrase de ces 75 pages, discours sur le colonialisme, il dit « L'Europe est inexcusable. Terminé. Il n'y a pas, il y a aucune circonstance atténuante pour les massacres des Africains, pour les mains amputées des travailleurs des plantations de caoutchouc en Indochine, parce qu'ils ne rendaient pas suffisamment de caoutchouc et c'était puni par l'amputation des mains. » Pour ces crimes-là, il n'a aucune quelconque excuse.
L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique, au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont désenchanté l'Afrique.
Don't bring that shit to me. Don't bring bullshit to Africa. Don't bring that shit to me. Don't bring that shit to Africa.
La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique.
Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Mais la colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres.
Jalo! Jalo! Takashina Tudupe! Takashina Tudupe! Takashina Tudupe! Takashina Tudupe!
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Don't bring that shit to me! Africa, I say, don't bring that shit to me.
My brothers and sisters,
don't bring bullshit to Africa.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Parmi les raisons de ce rejet de l'Occident et de cette haine de l'Occident, la haine de l'Occident, je rappelle le titre pour finir de votre bouquin, il y a évidemment, les politiques portées par, et ça, ça nous rapproche de votre fonction, par le FMI et par la Banque mondiale. Depuis pas mal d'années, on a vu les résultats de ces politiques un peu partout dans le monde. On en a longuement parlé, même dans nos rencontres précédentes. Je n'évoquerai pas l'Argentine, etc. Mais enfin, on voit aussi qu'il y a là l'une des causes, des innombrables causes de ce rejet de cette haine.
Totalement. L'ordre meurtrier du libéralisme, du capitalisme financier globalisé aujourd'hui, qui tient la planète, est perçu par les peuples du Sud comme le dernier avatar, comme le dernier des systèmes et le plus cruel, le plus planétaire, le plus efficace et le plus cynique de tous les systèmes de domination que l'Occident, depuis 500 ans, impose au tiers-monde, à l'hémisphère Sud, si vous voulez. Quand vous me dites FMI, et Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire les deux grands, avec la Banque mondiale, les trois organisations mercenaires des oligarchies du capital financier mondialisé, c'est vrai que leur politique est totalement dévastatrice. Est totalement dévastatrice. Je prends l'exemple du Mali. Les 132 pays, 122 pays du tiers-monde, excusez-moi, dites du tiers-monde, les 122 pays du tiers-monde ont eu une dette extérieur cumulé au 31 décembre dernier de plus de 2100 milliards de dollars. Autrement dit, pour ces pays endettés du Sud, le FMI est le vrai maître. Hein, est le vrai maître. Dicte la politique. Dicte, enfin j'ai vu ça X fois dans ces bureaux du président du Niger, du premier ministre du Mali, enfin concrètement, qui m'a dit, le FMI demande le licenciement de 1000, de 2000, de 3000 instituteurs. Demande la réduction de la fonction publique, demande la réduction du subventionnement, la disparition du subventionnement des aliments de base, au nom du marché, etc., etc. Et vous savez maintenant, cette extraordinaire perversion dans le bilan commercial étranger, par exemple le Mali, a exporté, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Mali a exporté cette année 380 000 tonnes de coton imposées par le FMI, parce que le FMI, logiquement, dans sa propre logique, il ne faut pas le critiquer. Dans sa propre logique, il faut l'abolir, le FMI, il ne faut pas le critiquer. Dans sa propre logique, évidemment, pour servir la dette, il faut exporter, puisque avec des biens d'exportation, on peut gagner des devises. On ne peut pas payer en des gourdes haïtiennes ou des bolivars boliviens la dette extérieure. Donc, l'agriculture d'exportation a été imposée et forcée. Et le Mali, par exemple, est un magnifique pays avec une classe paysanne d'une vitalité extraordinaire, de très très belles cultures, des Bambara, des Toucouleurs, vous connaissez tous ces magnifiques univers culturels. Le Mali exporte maintenant du coton, qui s'est effondré d'ailleurs sur le marché mondial à cause de la concurrence du coton américain qui est très fortement subventionné par le gouvernement américain. Donc les cinq pays producteurs du coton d'Afrique, Tchad, Niger, Bénin, Sénégal, Mali, sont par terre et importent la grande majorité de sa nourriture. Et l'importe d'où ? Du Cambodge, de Thaïlande et pendant un mois et demi, la nourriture est en route et il faut payer en plus les frais de transport. Et le prix du riz, à cause de la spéculation, a augmenté en 6 mois de 83% sur le marché mondial. Donc le FMI a créé des économies comportant des distorsions totalement meurtrières à cause de la logique. Servir les dettes, servir la dette extérieure auprès des grandes banques du Nord, c'est l'impératif, à imposer l'agriculture d'exportation et l'agriculture vivrière, périclite, et les enfants meurent de faim.
Merci à Jean Ziegler, le titre du bouquin « La haine de l'Occident » qui paraît ces jours-ci aux éditions Albin Michel. Et puis, on vous signale que Jean Ziegler donnera une conférence autour de son livre mardi 28 octobre à 18h30 au Club 44, 64 rue de la Serre, en Suisse, dans son pays, à La Chaux-de-Fonds. Et puis un bouquin qui va paraître le 16 octobre et qui est destiné à M. Sarkozy sous la direction de Adam Bakonaré. C'est une Africaine, M. Sarkozy, et ce livre, elle n'a pas écrit toute seule. Il y a tout un tas d'intellectuels et de chercheurs et d'historiens français et beaucoup africains. Et le titre intitule « Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy ». Voilà. On se retrouve demain à 15h pour la Bassie. J'y suis un petit peu de réclame.